sous le paysage. Épisode 1. Les contours, les limites, l'horizon. Enregistré à la Série, dans la bergerie de la vallée de Fabrice Hibert, en juillet 2024. En présence de Jean-Christophe Bailly, Maxime Olivier, Anne Simon et Gilbert Tsai, sur l'invitation de Maxime Rovert.
Aujourd'hui, je voudrais qu'on interroge justement ce que je vous propose d'aborder comme étant de l'ordre du cadrage à la fois physique, c'est-à-dire les limites du paysage, l'horizon, peut-être aussi temporel, puisque dans le paysage, il est beaucoup question de rythme, et donc de voir dans quel détail un paysage émerge.
On peut commencer avec la
Jean-Christophe Bailly.
Citation désormais célèbre de Michel Corajou, grand paysagiste qui est mort il y a quelques années. On a recueilli ses textes et le titre du livre, c'est cette citation-là de lui qui dit « Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent ». Donc ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas vraiment une limite, c'est un contact avec l'illimité. Et je crois que le premier rapport qu'on a avec le paysage, pour autant qu'on se donne le temps de le regarder, j'ai dit regarder, j'ai pas encore dit contempler, c'est justement ce qui accueille cette illimité, et ça veut dire l'accueil de tous les contenus possibles de l'illimité. Contenus qui sont eux-mêmes illimités, c'est-à-dire que le paysage, il est millimétrique, centimétrique, métrique, hectométrique, hectarique, si on pouvait dire, etc., etc. Évidemment, ça dépend de la configuration qu'il a, mais ce qui est toujours fascinant, si on se déplace d'un mètre, ou on se retourne légèrement, il change. Donc le paysage, c'est un étant donné fugace, mobile, et en même temps quelque chose de pérenne. Donc il y a le cadre, il n'y a pas de cadre en fait du paysage. C'est lui qui nous contient.
Oui, en fait, ce qui m'a étonné dans ta proposition, c'était le mot contour. Qui dit contour dit dessin. Donc là, on est effectivement peut-être dans une des origines du paysage, quel rapport à l'art et à la vue. Et moi, j'ai l'impression que plus on avance dans cette réflexion sur le paysage, plus... on a conscience qu'un paysage, surtout en littérature 20e, 21e, est un paysage qui est en mouvement, soit parce que lui-même bouge en permanence, à cause du vent, à cause d'animaux qui pourraient passer devant, etc. Parce qu'on peut faire aussi des micro-déplacements. Et puis surtout, il y a ce sujet qui n'est plus un sujet, qui n'arrête pas de se mouvoir et de se promener dans le paysage, et ce paysage n'arrête pas de se construire et de se déconstruire en même temps. Et je pense à un texte de Proust, qui est le premier texte en fait, qu'il écrit, le narrateur à la recherche du temps perdu. C'est un jeune homme, et le premier texte qu'il écrit, il est dans une calèche, hein, et donc cette calèche avance, donc le paysage n'arrête pas de changer, parce que les arbres sont trois, ensuite ils deviennent un, parce qu'il y a une sorte, la route à tourner, et donc on est dans ce qu'on appelle, nous, une description ambulatoire, on est dans un paysage mouvant. Et donc du coup, cette question du contour, elle viendrait prédélimiter une vision, alors que, comme le disait Jean-Christophe, non seulement on bouge, mais en plus on entend le paysage, et on est atteint par ce paysage, y compris par d'autres sens.
Et donc comment est-ce que ça s'harmonise pour qu'à la fin ça fasse paysage, ou faut-il justement assumer l'hétérogénéité, l'incohérence d'un paysage, peut-être l'éclatement du présent dans des temporalités qui sont différentes? Ou est-ce que ce qui fait paysage, c'est le moment où convergent quand même des temporalités, des sensorialités, qui font qu'à un moment, il y a rencontre, malgré tout?
Moi, je pense au... Parce que Gilbert Tsai, j'ai pu le lire là récemment, au livre de Gilles Clément, « Nuages », où il fait un voyage du Havre jusqu'à Valparaiso sur un bateau, sur un cargo. Et en fait... Il, lui, paysagiste, il étudie les paysages donnée uniquement par... Il y a la mer et les nuages, c'est tout. Et à travers, effectivement, le cycle de l'eau. Mais donc là, il me semble que dans ce cas, il n'y a pas de cadre. C'est la mer, c'est le ciel, et ça bouge tout le temps. Et il décrit ça très bien, tout au long du livre, en parlant de paysage.
Moi, ça me donne envie de vous partager...
Maxime Olivier.
Un des moments de mon déclic de prise de conscience écologique, qui est notamment dans les plantations d'huile de palme en Malaisie, où j'ai eu la chance d'habiter pendant un temps. Et en fait, quand tu as parlé du cadre et du contour, c'est tout de suite cette image-là qui m'est venue en tête, parce que précisément, s'il y a bien des paysages dans lesquels il y a ce cadre et ce contour qui vient par l'action de l'homme, hein, c'est les plantations. Et en fait, moi, je l'ai vraiment vécu de manière très tangible et très sensible. Quand on traverse la Malaisie, que ce soit en bus de part en part, en fait, le pays est ravagé par la déforestation et donc par les plantations d'huile de palme, qui sont pour le coup une particularité, qui sont extrêmement quadrillées. Et donc, il y a un espèce de rapport au paysage qui est très... très cadré, avec un contour très clair. La différence, moi, que j'avais perçue, c'était notamment le rapport à la lisière. C'est-à-dire qu'en fait, dans une forêt, ce qui est assez, il y a cette espèce de lisière qui est cet entre-deux qui permet vraiment qui laisse des contours assez flous. Finalement, c'est de mettre en où et quand commence la forêt. Alors que les plantations d'huile de palme, elles sont d'une espèce de violence et d'impolitesse dans leur manière de s'imposer à nous, même si c'est nous qui les avons mis là, mais il y a cette manière-là un peu de... Moi qui m'avais surpris dans ce rapport aux plantations, qui sont des paysages, pour le coup, extrêmement cadrés, quoi. C'est ça, cette image-là, qui m'est venue en tête quand tu as utilisé ces termes-là.
À propos de ces histoires de cadre, je pense que c'est très, très important, parce que il y a eu des théories, pas très anciennes d'ailleurs, qui expliquent qu'en fond, le paysage, c'est une invention des Hollandais à la fin du XVIIe siècle. Il y a pas eu... C'est assez ridicule pour moi, parce que du paysage, il y en a depuis toujours. Il y en avait même, Dieu merci, avant qu'il y ait des hommes. Mais simplement, le nom paysage, il désigne des choses très différentes selon les époques. Mais il a toujours été... Comment dire, l'espace même de notre respiration, de notre vie. On est dedans, où qu'on aille, où qu'on soit. Après le cadrer et le nommer, il y a un moment, c'est vrai, un moment d'installation du cadrage qui correspond plus ou moins, en tout cas en peinture, à la fin du 18e, début 19e. Et on ne peut pas développer tout ça, mais il y a un moment qui est hyper comme ça, avec les cadrés. C'est un tableau qui est presque caricatural de ça, qui est considéré comme un chef-d'œuvre plus ou moins. C'est le voyageur au-dessus de la mer de nuages de Caspar David Friedrich. Et au début, j'étais un peu impressionné quand j'ai découvert ça. Et maintenant, dès que je regarde ce tableau, j'ai envie de dire au voyageur, mais pousse-toi, s'il te plaît. D'abord parce qu'il est là, il occupe pratiquement l'espace du tableau. Il est dans l'espace d'un regard qui s'approprie. Hein, c'est l'appropriation, avec tout ce que ça peut avoir aussi comme prolongement symbolique et même politique, etc. Mais au fond, le paysage, il commence quand on enlève, non pas le sujet qu'il regarde, mais quand le sujet qu'il regarde accepte de se mettre un peu de côté et de laisser aussi tous les autres sujets qui sont dans le paysage exister. Et si le même paysage, on le regarde en essayant de comprendre ce que voit un oiseau, un rapace diurne qui est en train de se promener dans le ciel, une petite souris, il y a un texte de Mouzil extraordinaire, écrit dans les écrits pré-posthumes. C'est pendant la guerre, un gars qui est assis sur un banc dans les Dolomites, comme ça, et puis il voit une petite souris au pied du banc, puis brusquement, toute la guerre disparaît, il n'y a plus que ça. Et c'est du paysage. Et donc, c'est très difficile d'accepter cette multiplicité des échelles. Et le paysage, ce n'est pas du tout ce qui va harmoniser les échelles entre elles, c'est ce qui les laisse exister telles qu'elles existent, c'est-à-dire dans un entrecroisement et dans un chevauchement les unes par rapport aux autres permanent.
Et moi, je me demande parfois, avec toujours ce terme de contour, de cadre dont on parle, s'il n'y a pas depuis, on va dire, 150 ans à peu près, peut-être un peu plus, l'idée de décadrer le paysage. Et donc du coup, est-ce que c'est encore du paysage ? Il y a chez Proust, par exemple, toujours, et cette fois il est dans un train, donc il avance, et il voit un lever de soleil. Et le lever de soleil, il est à la fois du côté gauche et du côté droit. Et donc il court d'une fenêtre à l'autre de son train pour, comme il le dit, essayer de rentoiler les beaux fragments versatiles de son matin écarlate, quelque chose comme ça. Et donc il essaye de construire du paysage à partir de la fragmentation, fragmentation qui est celle du début du siècle, du cubisme, etc. Alors, il a la nature et le train lui offrent, qui est un artefact, lui offre un paysage fragmentaire et cubiste, et il essaye d'en faire un paysage 19e-iste, on va dire. Et en fait, c'est une erreur, et le paysage se crée dans cet aller-retour permanent qu'il fait. Et il y a d'autres moments, toujours dans La recherche du temps perdu, où il met ses mains autour de ses yeux, comme ça, pour faire un cadre, pour ne pas voir ce qu'il y a sur le côté, parce que c'est moche, c'est un yacht, ou c'est un café, ou un billard, et lui, il veut voir que l'église, ou il veut voir que le paysage maritime et la mer immémoriale. Et donc, avec ses mains, il se construit un cadre pour créer un paysage tel qu'on l'entend. Un paysage tel que ça devrait être, un paysage de nature sublime. Voilà. Il va y avoir un apprentissage de sa part à ne pas confondre ce paysage sublime avec ce que peut être le paysage. Et c'est le peintre Elstir qui va lui apprendre à revenir à ses lisières, au mélange du ciel et de la terre, à l'impossibilité de qu'il y ait des contours, justement, parce qu'il y a les éléments qui se fondent les uns les autres et que nos catégorisations sont trop pauvres, finalement, par rapport à nos sensations.
Si je comprends le chemin qu'on a fait depuis le début, il me semble qu'on vient de voir que dans le paysage, il y a des formes, mais lorsque ces formes sont sans mouvement, elles deviennent sans vie. Et qu'inversement, il y a du mouvement, mais qui cherche à se donner forme, de telle manière que ces formes, au lieu de le contraindre, laissent en fait plusieurs mouvements advenir, d'où l'effet de décentrement. On pourrait dire qu'un paysage, c'est un espace qui nous décentre.
Moi, je suis curieux d'un truc, parce que tu as dit tout à l'heure, Jean-Christophe, que le paysage, je te cite, Dieu merci, préexistait à l'homme. Moi, j'avais cru comprendre que justement cette notion de paysage, elle était anthropomorphisée d'une certaine manière. En termes de sémantique, est-ce que vraiment le paysage préexistait à l'homme, justement ? Il existe parce que tu parles de la question du décentrement. Du coup, je me pose la question de est-ce que réellement c'est un concept que nous avons créé pour définir cet environnement ou ce vivant dans lequel on évolue ? Mais du coup, il préexiste pas, j'ai l'impression.
Mais je sais pas, je suis assez simplement hyper matérialiste, quoi. C'est-à-dire, depuis que le monde existe, il y a quelque chose qui ressemble au paysage. Après que l'homme lui ait donné ce nom et que se soit construite une relation qui change d'ailleurs selon les civilisations et selon le moment historique, mais bien entendu que on peut pas. Le fait qu'il y ait anthropisation ne veut pas dire qu'il y ait le. Alors, je fonctionne un peu par citation là, surtout quand on est dans ce type de fonctionnement là, mais il y a cette phrase que je cite systématiquement de Novalis, mon ami Novalis, qui est c'est pas le mot paysage, c'est le mot nature. Mais j'appelle nature la communauté merveilleuse, la wunderbare Gemeinschaft, c'est la communauté merveilleuse où nous introduit notre corps. Je trouve cette phrase écrite en 1800 d'une force incroyable. La communauté merveilleuse où nous introduit notre corps, on pourrait le dire pour le paysage. Ça veut dire quoi, communauté ? Ça veut dire qu'on est en commun avec tout ce qui habite le monde autour de nous. Idée aujourd'hui qui est mainstream, etc. Mais bon, Novalis, il l'a à ce moment-là. Et c'est le contraire, d'une certaine manière, du gars qui regarde la mer de nuages, qui se sépare, au fond, qui est ultra séparé du monde. Et où nous introduit quoi ? Notre corps, c'est-à-dire notre corps c'est notre mouvement, notre vie, des parcours, c'est une pénétration, des marches arrière, des marches avant, sur les côtés, etc. Et aussi, la respiration, bien entendu, l'échange permanent qu'on a avec le monde par le simple fait de respirer, etc. La marche à pied, en fait, tout ça, tout ce qui nous déplace dans le monde. Et en même temps, on est arrivé là, il y a un certain nombre d'années, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on le sait ou qu'on le croit, mais en même temps, on est arrivé dans quelque chose qui était là et qui faisait sans doute un paysage merveilleux. Les dinosaures s'en mettaient plein les mirettes. Hein.
Ce que je trouve intéressant dans ce que vient de dire Jean-Christophe, c'est que... Et du coup, ta question, Maxime, donc c'est cette question de l'historicité du paysage, de où est-ce qu'il y a paysage sur une scène, dans un jardin qui est lui-même pas un paysage, mais voilà, qui est une sorte de paysage. En tout cas, les jardins, c'est, voilà, c'est complexe. Et ce qui se pose, je crois, c'est aussi la question de la place de l'humain dans tout ça. Est-ce qu'il faut qu'il y ait... où doit être l'humain pour qu'il y ait ou non paysage ? Est-ce qu'on doit être dans le paysage, l'arpenter, voilà, naître avec lui, connaître avec lui ? On sait maintenant qu'il y a aussi des œuvres d'art ou des peintures où voilà, l'humain ne va plus être l'échelle et où on va sortir carrément l'humain du tableau pour créer un paysage qui serait... rendu par des perspectives qui ne sont pas les nôtres. Et le mot perspective est pénible, hein, parce que ça vient de... C'est encore le vocabulaire de la vue. Hein, tout notre vocabulaire critique, que ce soit artistique ou littéraire, focus, focal, point de vue, focalisation, perspective, etc., relève du scopique, hein, du sens qui, chez l'humain, est le plus important, entre guillemets, quand on n'éduque pas les autres. Et c'est pour ça que je suis bien, Jean-Christophe, évidemment, comme d'habitude, sur l'idée qu'il faut élargir la question du paysage à quelque chose qui ne relèverait pas de la vue, simplement. Et donc, du coup, il y a toutes ces questions qu'on n'a pas encore évoquées, qui seront des questions de rythme et puis des questions d'échelle, hein, effectivement. Parce que tu vois, avant, ce qui faisait paysage... Même quand l'humain était tout petit, c'était l'humain, c'était lui qui donnait l'échelle, en quelque sorte. Qu'il soit immense, comme dans le tableau de Friedrich, où là, l'humain est à la mesure du sublime, ou tout petit pour donner à voir le côté grandiose de la nature créée par Dieu, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est quand on décide que l'humain n'est plus dans le paysage, ou qu'il y est de façon très... très anecdotique. Je pense à un tableau, j'étais à Rome il n'y a pas longtemps, je ne me souviens plus qui c'était, c'est la chute d'Icare. Et donc on voit un très très beau paysage de mer, etc., de cieux. Et il y a un tout petit point quelque part, et c'est Icare. Et donc là on se rend compte que voilà, Icare est le prétexte, en fait, pour plus grand que lui.
Oui, donc il y a des jeux d'échelle, des jeux de rythme qui peuvent totalement déjouer, disons, la mise en perspective, telle que d'abord les arts visuels, mais aussi la perspective mise en place en Italie au tournant du 15e, 16e siècle, a défini comme étant, disons, la reconstitution d'un espace centré sur un sujet qui regarde. Quelle est la place de l'humain dans un paysage politique qui serait la rue, par exemple?
Déjà, j'observe que j'y avais pas pensé au paysage urbain avant que tu le mentionnes, et que j'étais vraiment dans un imaginaire de paysage qui était exclusivement naturel, lié au vivant, quoi. Et c'est marrant, je me dis, c'est fou comment, pour moi en tout cas, ce terme de paysage, il charrie un imaginaire qui est pas du tout celui qui serait urbain, quoi. Voilà, donc c'est déjà première remarque. Et donc par rapport à ce que tu apportes là, en fait, bon, de l'ordre de ce qui est de ma pratique, notamment de ce qui est de l'ordre de l'occupation de l'espace public, la question qui se pose, c'est en fait comment par l'occupation de l'espace public, on donne à voir un paysage qui serait différent En fait, alors dans le cas du paysage urbain, c'est assez simple, c'est-à-dire l'idée que il y a une manière d'occuper le paysage urbain qui se fait à travers certains déplacements, la place de la voiture en ville, etc. Et donc vider une place de ces voitures, par des modes de désobéissance civile qui sont le blocage d'une place, en bloquant toutes les entrées et toutes les routes qui permettent d'arriver à cette place et de faire en sorte qu'elle soit vidée de toutes les voitures. C'est une manière de voir ce paysage différemment. Et y a beaucoup de photos qui circulent aussi en ce moment, notamment sur la place qu'ont pris les parkings en ville, et de beaucoup de jeunes qui s'étonnent de voir à quel point, finalement, il y a des années de ça, ces parkings n'existaient pas, et ces parkings-là étaient des parcs ou des grandes places, et qu'il y avait une autre manière d'habiter la ville, en fait, alors qui était sûrement moins pratique à des endroits, mais qui en fait était complètement différente, et souvent on peine à reconnaître la ville sur ces images-là, quoi. Et moi, ça me questionne beaucoup, parce que là, dans les modes de politique publique qu'on essaie de mettre en place sur des plans locaux d'urbanisme à des échelles très locales, il y a une espèce de retour en arrière sur la place de la voiture en ville, en train de se dire comment est-ce qu'on construit un autre espace public qui laisse plus de place aux piétons, aux déplacements bas carbone, etc. Et donc ça recompose un peu notre rapport aussi à la ville. Et je trouve que c'est intéressant de voir que c'est... En fait, que c'est difficile de s'imaginer un paysage urbain différent. En fait, on a du mal à se projeter dans un imaginaire différent quand on a grandi dans un paysage urbain qui est exclusivement défini par notamment la place de la voiture ou autre. Mais moi, je me rends compte que je suis très enfermé dans mon imaginaire de ce que pourrait être une ville au final.
La question du paysage urbain, je me souviens à l'école, c'est une question déjà, est-ce qu'on peut parler de paysage urbain ? Moi, j'ai toujours dit oui. Ça me dérange pas énormément, mais il faut peut-être revenir à des choses très, très basiques. Et le plus basique, c'est, je me souviens plus, je crois que c'est Dizours, il s'appelle, un indien Cheyenne, dans les procès qu'il y avait au 19e siècle, etc., au moment de la conquête de l'Ouest, avec toute la sauvagerie qu'elle a eue, et tout ce qu'elle a comporté d'évidemment, d'éminemment destructeur. Mais il y a un moment, cette phrase extraordinaire où il dit « Jusqu'à ce que je vois arriver les Blancs, jamais rien ne s'était interposé entre moi et le soleil. » Il explique qu'il n'avait jamais vu un mur. C'est d'une force quand même absolument incroyable. Donc c'est les Indiens de la prairie qui vivent dans les fameux tipis et tout ça. D'autres Indiens du côté de l'Arizona ou du Nouveau-Mexique n'auraient pas dit ça puisqu'ils construisaient des villages et des maisons. Mais en tout cas, il y a cette expérience-là d'un paysage absolu d'une certaine manière. On est dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, et on peut à l'inverse caractériser la ville comme un empêchement du paysage. Mais en même temps, si on regarde ce qu'est l'architecture, c'est pas le mur, c'est tout ce qui est capable de trouver un mur. Une porte, une fenêtre, les toits, l'articulation de ces percées, de ces trouées, de ces espacements. Et une gymnastique rigide d'espacement, c'est ça, la ville. Et ce qui est terrible, c'est quand quelque chose qui semble acquis, c'est-à-dire avec des espaces infiniment pénétrables, dans lesquels on voit très bien l'horizon, dans lesquels on voit très bien le ciel. Mais ce qui est terrible, c'est quand justement le mur revient. Le mur, c'est-à-dire l'empêchement. Et j'avais remarqué à la centrale de Douai, où j'avais été invité à parler aux prisonniers qui font des longues peines, j'avais remarqué, je me suis renseigné après, que toutes les prisons sont bâties sur ce modèle, c'est-à-dire que d'aucun point de vue de la prison, on ne peut voir ce fameux point de contact entre la terre et le ciel. L'horizon est interdit. Ça, c'est extraordinaire comme définition. Pourquoi ? Et donc le mur, c'est bien quelque chose qui fait mur, c'est la prison. Donc c'est facile de voir qu'on peut décaractériser la ville comme ce qui devrait être l'opposé absolu de la prison.
L'horizon, c'est ce qui recule tout le temps, évidemment, puisque chaque fois qu'on avance vers l'horizon, il se déplace. Et donc c'est une belle définition terrible de la prison, effectivement, de montrer que c'est l'empêchement de l'horizon, c'est-à-dire du déplacement. Et ça me fait penser qu'il y a peut-être paysage quand on a l'impression ou qu'on a le droit qu'on peut rentrer dedans.
Giacomo Leopardi, l'infini.
Toujours chères me furent cette colline déserte, et cette haie qui sur un long espace cache au regard l'extrême horizon. Mais m'asseyant et regardant au-delà de la haie, j'imagine d'interminables espaces, des silences surhumains, un profond repos où il s'en faut de peu pour que le cœur ne défaille. Et comme j'entends bruire le vent à travers le feuillage, je vais comparant le silence infini à cette voix, et je me souviens de l'éternité, des siècles morts, du siècle présent et vivant et de sa rumeur. Ainsi, dans cette immensité, ma pensée sombre et il m'est doux de faire naufrage dans cette mer.
Jean-Christophe Bailly.
Le paysage, ben les premiers contacts que j'ai eus avec lui, forcément, c'est ce qu'on appelle le paysage urbain. Il y a des souvenirs très très précis de certains lieux parisiens, et puis premièrement la campagne et le bord de mer, comme on pouvait connaître dans les années 50. Mais disons, ce qui a déterminé le lien que je peux avoir avec le paysage, ça a été le lien que j'ai eu avec la peinture, puis la photographie. Peinture de paysage, pas exclusivement, mais beaucoup, et photographie de paysage, pas exclusivement, mais beaucoup. Et de fil en aiguille aussi, je m'intéressais énormément à la façon dont les hommes habitent, l'urbanisme, la ville, comment ils font, comment ils sont, etc. Ce qui m'a amené à quand j'ai perdu mon travail dans l'édition, à devenir professeur dans une école qui s'appelait École nationale supérieure de la nature et du paysage, à Blois. Et ce qui était formidable, le type qui avait créé cette école, qui s'appelle Boiscuyer, c'est quelqu'un de formidable, et c'était un projet assez utopique, qui a d'ailleurs été dûment ratiboisé par les bureaucrates depuis. Mais c'était l'idée que les étudiants de cette école, de paysage, donc, qui suppléaient un petit peu au manque, parce qu'il n'y avait que Versailles à l'époque comme école, l'idée que ça, c'était l'idée de Boiscuyer, qu'il soit à la fois ingénieur et esthète d'une certaine manière. Et je me souviens de Boiscuyer qui disait, normalement, un étudiant de l'école, il doit pouvoir faire un topo sur Léonard de Vinci et savoir le diamètre qu'il faut pour qu'un autocar fasse un demi-tour. Voilà. Enfin, c'était un peu caricatural, mais du coup, ça caractérise assez bien le style de l'école, qui était en phase avec quelque chose d'un peu utopique quand même, dans le meilleur sens du mot. Et moi, ça m'a enthousiasmé de faire ce travail. Et donc, d'une part, je faisais un cours tous les mercredis sur histoire de la formation du paysage et de ses représentations. Donc voilà, c'était son intitulé. Ça ronfle, mais en fait, c'était vraiment de cela que ça parlait. En gros, comme j'avais les étudiants de 3e et 4e année pendant 2 ans, c'était, pour caricaturer, mais en même temps, c'était ça, des cavernes aux cités, quoi, des cavernes aux HLM. Et on progressait comme ça dans le temps, en regardant ce que les hommes avaient fabriqué, les bifurcations qu'avaient été celles, du moins, de la civilisation occidentale dans laquelle nous fonctionnons, plus ou moins bien et même de plus en plus mal, mais ça, c'est une autre affaire. Et puis, et aussi, on devait accompagner les étudiants en travail de fin d'études. On se les répartissait, et donc on en héritait chaque prof de 3-4 étudiants, et il fallait les accompagner sur leur site, le site qu'ils avaient choisi pour leur diplôme. Et ça, j'ai beaucoup appris en faisant ça, à regarder vraiment l'envers du décor. C'était bon, ils se posaient des vraies questions. Comment on pourrait limiter les risques d'incendie dans cette forêt? Comment on pourrait aménager cette friche industrielle, etc., etc. Et à chaque fois, j'allais avec eux sur les lieux et je réfléchissais, etc. Et d'ailleurs, c'est à force de faire ce travail d'accompagnement et ce travail à l'école de paysage que j'ai écrit un livre comme ça qui s'appelle Le dépaysement, qui est un ensemble de chapitres qui en fait sont des promenades à travers ce pays qui est la France aussi, parce qu'à l'époque il y avait les questions d'identité, etc., qui se posaient d'une manière un petit peu délicate, comme aujourd'hui d'ailleurs, Mais l'idée, c'était de réfléchir à ce que ça veut dire. Pourquoi ce paysage-là, il est comme ça? Est-ce qu'il doit rester comme ça, puisque tout est toujours en devenir? Pourquoi est-ce qu'on tient? Est-ce que quelque chose de lui demeure? À quoi c'est lié? Est-ce que c'est de la nostalgie? Est-ce que c'est au contraire une vision en phase avec l'écosystème local? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire biodiversité, qui n'est qu'un slogan? À quelle espèce animale, végétale, ça correspond? Et comment tous ces êtres-là, ces gens-là, moi je dis, du moins, d'herbe aux rapaces d'urne, enfin, comment ils fabriquent justement le paysage. Je me suis aussi donc beaucoup, chemin faisant, intéressé justement, non pas à la biodiversité comme telle, mais aux animaux dans le paysage, comment ils en sont les fabricants, tout ça, non seulement les animaux sauvages, mais aussi même d'avoir réfléchi sur l'élevage, comment l'élevage aussi peut contribuer tel. Pas l'élevage industriel, évidemment, mais la critique de l'élevage industriel est la plus forte pour moi si elle repose sur une connaissance ou une approche de ce qu'est l'élevage, non pas traditionnel, mais l'élevage, disons, en biome, l'élevage où les animaux sont laissés au contact du monde qu'ils sont censés habiter, qu'ils devraient habiter. Voilà, et évidemment, il y a les voyages aussi et tout ça. Et juste pour terminer, donc, je me suis forgé une idée du paysage qui est, j'espère, pas du tout dogmatique, mais disons, ce qui pourrait la caractériser, c'est sortir du tableau, d'une certaine manière, sortir du cadre, c'est-à-dire on cadre, et il y a toujours cette citation du photographe Lewis Boats, qui, lorsqu'il avait des étudiants qui étaient devant un beau paysage, qu'ils allaient bien cadrer, il leur disait, ben, retourne-toi. Et cette idée que le paysage, il n'est pas ce qui est devant, il est aussi ce qui est derrière, autour, que le paysage n'est pas que visuel, il est sonore, olfactif, etc. Et que intégrer simplement toutes ces données, c'est d'une part, si on est dans un projet comme un paysagiste, c'est un travail énorme, et si on est hors projet, dans la promenade, c'est ce qu'il y a de plus passionnant à faire sur Terre.
Cet épisode est soutenu par l'École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, l'Atelier de Sèvres, Nantes Université et l'association Fieldwork Marfa.